Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Dans la salle des fêtes de Crépy en Valois, les 22 et 23 octobre 2021, le collectif des sociétés historiques de l'Oise organisait, sous la présidence de Galit Haddad, chercheuse associée de l'École des hautes études et sciences sociales, un colloque intitulé « Les années 20 dans l'Oise ». J'ai demandé à Éric Danquane, président de la Société d'histoire et d'archéologie du Valois, pourquoi avoir choisi les années 20.
Parce que, en fait, on a commencé notre cycle de journée d'études en 2014. Et les années 20, c'est l'aboutissement de quatre colloques. Donc le premier 2014 à Senlis, le deuxième à Clermont en 2016, le troisième à Compiègne et le dernier, donc celui de Crépy. En fait, on est dans le cycle des cérémonies du centenaire. Et donc ça vient clore ces cérémonies, ces moments de commémoration, d'études dans le département. Voilà.
Mais en quoi ces années 20 sont remarquables ?
Parce que les années 20, c'est pour nous, société d'histoire, c'est voir les séquelles de la guerre. C'est-à-dire, et on l'a présenté hier matin particulièrement, c'est le fait qu'on est dans les conséquences de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, elle se termine bien sûr en 1918, mais on a des prolongements sous forme de conséquences. Les destructions de la guerre, par exemple, dans le Noyonnais, en fait, pour les habitants du Noyonnais, c'est qui ont perdu leur maison. Il faut se rappeler que, par exemple, le canton de Noyon, c'est 100% de destruction. Donc, forcément, c'est un prolongement de la guerre de manière différente. Donc, on pense effectivement à ça. Alors, dans le colloque, on a essayé, en fait, d'alterner entre des choses connues, ce qui a déjà été travaillé, et puis, des éléments de la recherche en cours et de les faire apparaître pendant ce colloque sur les années 20.
Les années 20, c'est-à-dire que ça a commencé à peu près, c'est les années folles, quoi. Ça commence aux années 20, ça finit en 31, à peu près.
C'est ça. Donc, en fait, justement, c'est une question qu'on se pose. C'est-à-dire, ce qu'on appelle ce chrononyme, c'est-à-dire le fait de périodiser et de nommer la période, les années 20, donc on n'a pas appelé ça, le libellé de notre colloque, en fait, ne porte pas sur les années folles. Ouais. Mais pour la plupart des gens, on identifie les années 20 aux années folles. Or, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas d'années folles dans l'Oise, que c'est vraiment le temps du deuil, c'est le temps, effectivement, des difficultés pour la majeure partie de la population. J'ai cité la carte postale en fait d'une commerçante qui a perdu son bien à Conchy-les-Pots. Donc on est dans le centre nord du département, sur la route de Roye. Et alors elle dit la guerre c'est bien malheureux, on a tout perdu. C'est une perte de position sociale. Elle vit dans un baraquement qu'elle loue, comme apparemment elle le loue cher. C'est 3 pièces, 90 francs par an. Pour elle, effectivement, ça compte. Donc, on est véritablement dans les conséquences de la guerre. Et donc, les uns et les autres, analysent ces conséquences de la guerre.
Mais est-ce que ça va être quand même une révolution, la fin de la guerre, puisque... il y a pas mal de gens qui sont morts, donc le problème agricole va se poser.
Ce que j'ai montré par exemple hier matin dans l'introduction, c'est qu'on a une perte, d'une façon générale dans l'Oise, on a une perte du nombre d'habitants. Donc on est redescendu en dessous des 400 000 habitants, On a perdu plus de 20 000 personnes. Donc forcément, avec le phénomène des... le fait que la natalité était déjà en berne avant 14, elle l'a été encore plus pendant la Première Guerre mondiale, il va falloir, on a besoin en fait de main-d'œuvre.
On a beaucoup, par exemple, dans l'Oise, on a beaucoup de personnes d'origine ou belge ou polonaise. Donc c'est à partir de cette période-là qu'ils vont venir.
Alors, on a déjà des Belges avant la Première Guerre mondiale. Mais dans les années 20, effectivement, donc, ce sont les Polonais qui passent très 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 rapidement devant effectivement la communauté belge. Et on a aussi des Tchécoslovaques, on a des Yougoslaves, donc en petite minorité.
Parce qu'on n'a plus assez de main-d'œuvre dans le travail aux champs.
Parce que, en particulier, voilà, il y a des communes qui ont perdu des habitants. Et du coup, il faut compenser cette perte. Donc, vous avez des communes, c'est 25, 30, 40, voire 50% de la population immigrée.
Et l'industrialisation fait que les ouvriers agricoles vont plutôt aller en usine. Ça sera plus facile que de travailler dans les champs.
C'est sûr qu'il y a un phénomène concomitant, c'est-à-dire que l'immigration s'explique aussi par le fait qu'on a un processus de... finalement d'exode rural, et il faut compenser en fait la perte des habitants qui travaillaient la terre et qui s'engagent en fait dans les industries parce que c'est mieux payé, tout simplement parce que les conditions de vie sont, semble-t-il, un peu meilleures. Enfin, sur le lieu de travail, c'est pas forcément une évidence, mais le résultat, c'est qu'il faut effectivement donc employer de nouveaux travailleurs, ce qui explique l'apport en particulier des Polonais.
Toujours dans la salle des fêtes de Crépy-en-Valois, Éric Dancoine, président de la Société d'histoire et d'archéologie du Valois, nous détaille les thèmes abordés lors de ce colloque.
Alors, on a abordé effectivement beaucoup de thèmes. Hier, on était sur les aspects, en fait, les traces de la guerre. On était sur les vestiges de la guerre, on était sur la mémoire de la guerre.
Il y a des lieux qui restent, des lieux de mémoire.
Oui, de toute façon, dans le quart nord-est du département, là où on était dans la zone des combats, le long de la ligne du front, il y a des traces effectivement encore présentes. Il y a des forêts qui ont été très sommairement nettoyées en surface. Et puis on a laissé en l'état. Il n'y a pas eu véritablement de nettoyage en profondeur. Donc les cratères d'obus, les cratères, on voit dans le paysage très très bien. Donc les cratères d'obus, l'amorce des tranchées, c'est une réalité effectivement dans le nord-est du département.
Il y a encore des recherches qui se font ou pas ?
Ah bah toujours. Ouais. Toujours. Puis à l'initiative notamment d'associations. Ouais. L'association qui, là, récemment, on a découvert une nouvelle galerie près de Moulins-sous-le-Touvent. C'était le secteur du front, du côté de Tracy-le-Mont, Tracy-le-Val, Moulins-sous-le-Touvent. Donc on était dans la zone des tranchées. Et donc on a découvert récemment, je crois que c'est au cours de l'été, on a découvert une nouvelle galerie. C'est pas la première. Restée en l'état. Et donc, on a dans l'Oise, effectivement, de nombreuses traces matérielles de la guerre. Alors, ça, c'était effectivement hier, traces, vestiges, souvenirs, commémorations, toute la journée d'hier. Et aujourd'hui, en fait, en deux temps, c'est les aspects, en fait, culturels, les aspects économiques, sociaux, politiques. Et cet après-midi, on termine par la vie culturelle, qui pourrait, d'une certaine manière... un peu illustrer l'idée des années folles. Parce que c'est l'émergence du cinéma dans les villes.
Il y avait dans l'Oise des cabarets, des choses comme ça, qui se sont mis en place après.
On sait que, je pense en particulier à Chantilly, donc dans les milieux finalement aisés, mondains, on a dansé le Charleston, on était sur la musique jazz, etc. Mais ça reste une très petite minorité.
On se focalise sur Paris alors que la province n'était pas au même niveau quand même.
Ah ben absolument pas. Il y a le poids effectivement du deuil collectif et du deuil individuel. Donc on n'était pas vraiment à la fête si on veut utiliser une formule.
D'accord. Et les années 30, on ne va pas arranger l'affaire.
Ah ben on va passer effectivement du deuil. Et le deuil en fait ne s'arrêtera jamais. Le deuil collectif, les commémorations, le besoin de ne pas oublier. On marche, dans les années 30, on marche à la guerre. C'est la crise économique qui touche en fait l'Oise à partir de 1931. Donc on passe en fait d'une situation qui n'est pas idéale à une autre situation qui n'est pas du tout idéale. Voilà.
Alors là, on avait deux jours de colloque qui étaient organisés par les sociétés d'histoire de l'Oise. Les gens ne pouvaient pas tous venir à Crépy-en-Valois, évidemment. Comment ils peuvent retrouver ces deux jours de colloque ?
Alors, en fait, comme pour les précédents colloques, il y aura les actes qui seront publiés, effectivement, donc probablement pas cette année, mais l'année prochaine, fin de l'année prochaine, début de l'année 2023. Donc ça prend du temps quand même de publier les actes.
Hein. On trouve ça sur le site de la CHAV ?
Alors, on trouvera sur le site de la CHAV. Alors je rappelle que le collectif, c'est les deux sociétés de Compiègne, c'est Noyon, c'est Clermont, c'est Senlis, c'est Nanteuil-le-Haudouin, c'est Beauvais, nouvelle venue, la SAO, la Société Académique de l'Oise, c'est Chantigny, j'espère que j'oublie effectivement personne.
Depuis la salle des fêtes de Crépy-en-Valois, c'était Hervé de Chornia qui interrogeait pour RVM Éric Dancoine, président de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Valois, lors du colloque intitulé « Les années 20 dans l'Oise ».
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.